Bonjour à tous ceux que j'ai pas eu l'occasion de saluer encore. C'est avec joie que je me retrouve parmi vous. Et je vous transmets les salutations de l'église de Colmar-Ingersheim d'où je viens. Alors je vais parler aujourd'hui d'une opposition que l'on trouve notamment dans l'évangile de Jean, qui est bien connue entre être dans le monde et ne pas être du monde. Dans la mesure où on sait que être disciple de Jésus, c'est marcher à sa suite, c'est s'employer à lui ressembler de plus en plus, mais ça implique de s'éloigner ou de se détacher de ce qui nous en sépare, et notamment se détacher du monde environnant. Mais on le sait, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et cette double dynamique, donc d'un côté suivre Jésus et de l'autre se détacher du monde, rejoint, comme je l'ai dit, les paroles de Jésus dans Jean 17, au verset 14 et 16. « Ils, c'est-à-dire les disciples, ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. » Ce qui montre déjà que ne pas être du monde, c'est être comme Jésus. Et Jésus continue en disant « Comme tu, c'est-à-dire tu, c'est Dieu, m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. » Alors, comment être détaché du monde tout en étant dans le monde? Alors, mon message se décompose en trois parties. La première partie, c'est est-ce que c'est si simple d'identifier ce dont nous devons nous détacher? Deuxième partie, alors, se détacher de quoi? Et troisième partie, comment faire? Donc, première partie, se détacher de quoi? Est-ce que c'est si simple à identifier? Alors, tout d'abord, il s'agit de bien comprendre ce que veut dire le monde. Quel est le sens de monde dans cette phrase de Jésus? Parce que dans l'évangile de Jean, il peut avoir différents sens selon son contexte. Il peut désigner l'ensemble de la création, mais le monde, ça peut être plus simplement aussi la planète Terre. Ça peut aussi être les humains, mais aussi, et c'est dans ce sens-là qu'il est employé dans le passage que j'ai cité tout à l'heure, le monde, ça désigne un système de valeurs, un système de structures qui est dominé par le prince de ce monde. Et c'est pour cette raison que Jésus a prié ainsi pour ses disciples en disant « Je ne te demande pas de les enlever du monde, mais de les garder du mauvais. » Alors à partir de là, on comprend qu'il ne nous est pas demandé de vivre sur une île déserte, qu'il ne nous est pas demandé de vivre reclus loin de tout, mais de nous séparer du mauvais. Du coup, se détacher du monde, ça a l'air plus simple. On a sa petite liste de choses à ne pas faire pour vivre selon la volonté de Dieu, par exemple, ne pas voler, ne pas donner de faux témoignages, ne pas commettre d'adultère, etc. Mais Jésus, par sa vie et par son enseignement, a brouillé les frontières sécurisantes établies par les pharisiens et peut-être par nous aussi, en élargissant l'application de ses commandements, notamment dans ce qu'on appelle le sermon sur la montagne en Matthieu 5 et 6. Exemple. Je cite les paroles de Jésus. « Vous avez entendu qu'il a été dit « Tu ne commettras pas d'adultère. » Mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme de façon à la désirer a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. » Matthieu 5, verset 27-28. Ou encore, « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens « Tu ne commettras pas de meurtre. » « Celui qui commet un meurtre sera passible de jugement. » Mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. » Matthieu 5, 21-22. À partir de là, de ces quelques exemples, on voit que le mauvais ne se laisse pas enfermer dans des limites claires et sécurisantes. Se séparer du monde, ça implique beaucoup plus. Avec un tel niveau d'exigence, Comment encore vivre dans ce monde sans se compromettre? Et c'est la question que les pharisiens ont posée à Jésus en Matthieu 22, versets 15 à 22, que je vais lire. Alors les pharisiens allèrent tenir conseil pour décider comment piéger Jésus par une question. Ils envoyèrent ensuite quelques-uns de leurs disciples et quelques partisans d'Hérode dire à Jésus « Maître, nous savons que tu es vrai. Tu enseignes en toute vérité le chemin qui plaît à Dieu. Tu n'as peur de personne et tu ne tiens pas compte de l'apparence des gens. Dis-nous donc ce que tu penses de ceci. Est-il permis ou non de payer l'impôt à César ?» Mais Jésus connaissait leurs mauvaises intentions. Il leur dit « Hypocrites, pourquoi me tendez-vous un piège ? Montrez-moi l'argent qui sert à payer l'impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d'argent et Jésus leur demanda « Cette image et cette inscription, de qui sont-elles ?»« De César, » répondirent-ils. Alors Jésus leur dit « Ce qui est à César, rendez-le à César, et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. » Quand ils entendirent cette réponse, ils furent remplis d'étonnement. Ils le laissèrent et s'en allèrent. Fin de la lecture. Alors l'entrée en matière des pharisiens est révélatrice. Ils savent que l'enseignement de Jésus est radical, qu'il est prêt à braver l'autorité, y compris celle des pharisiens. Il n'a pas hésité à chasser les vendeurs du temple, par exemple. Alors, ils cherchent à pousser la radicalité de Jésus jusqu'au bout et à le prendre au mot. Ils pensent qu'il va répondre qu'il ne faut pas payer l'impôt à l'empereur, car cela serait lui faire allégeance. Et alors, ils pourront le prendre en flagrant délit de rébellion contre l'occupant romain. Leur question, évidemment, est piège, car ils la posent pour coincer Jésus. Mais en fait, c'est une vraie question. Au-delà du problème du rapport aux autorités, elle illustre la tentation d'une vision tranchée entre d'un côté le monde et de l'autre ce qui n'en est pas. Et est-ce que nous-mêmes, ça ne nous arrangerait pas parfois de savoir exactement ce qu'il est permis ou non de faire? Et Jésus justement ne répond pas à cette question, est-il permis ou non de payer l'impôt? Car c'est une mauvaise question. Comme celle que les pharisiens avaient posée à Jésus dans la synagogue un jour de sabbat. Est-il permis de faire une guérison un jour de sabbat? En Matthieu 12, verset 10. Prendre le problème par ce bout-là, c'est s'enfermer dans un catalogue où il suffirait de cocher les cases permis oui, permis non. C'est sans doute rassurant, comme les pharisiens qui se croyaient justes parce que justement ils observaient la loi. Mais c'est laisser de côté des pans entiers du problème. La réponse de Jésus aux pharisiens est déconcertante. Certes, la monnaie est à l'effigie de l'empereur et de l'empereur, et ce qui est à Dieu. Donc, il y a deux mondes différents. Mais les disciples doivent payer l'impôt à l'empereur. Les envoyés des pharisiens repartent étonnés. Jésus leur a ouvert un nouvel horizon. Les deux mondes ne sont pas si étanches que ce que la radicalité de l'enseignement de Jésus pouvait laisser penser. Les deux mondes sont en tension et ils ont besoin d'être démêlés. Alors, comment savoir quel est le mauvais dont il faut se séparer? Et j'en arrive à ma deuxième partie, se détacher de quoi alors? En Romains 12, verset 2, Paul donne une piste fondamentale. Ne vous conformez pas à ce monde-ci, ou si je traduis littéralement, ne soyez pas façonnés par les schémas de ce siècle. Ce qui veut dire, ne vous laissez pas modeler par le monde qui vous entoure. Et ça concerne les valeurs qui sont celles du monde. Ces valeurs finissent par nous gagner sans qu'on s'en rende compte. Et c'est là qu'il est difficile de se détacher du monde. La confession de foi dans une perspective mennonite va dans ce sens. Elle dit, je cite, « Suivre Jésus implique une distanciation, voire une rupture avec certains schémas de pensée et certaines pratiques individuelles ou institutionnelles présentes dans la société. » Une distanciation, une rupture avec certains schémas de pensée ou certaines pratiques individuelles ou institutionnelles présentes dans la société. Ce qui signifie qu'on ne peut pas se détacher du monde si on n'est pas conscient de ses schémas ou de ses valeurs. Alors certaines valeurs sont assez évidentes, elles sont reconnues, et la confession de foi que je viens de citer en mentionne quelques directions. Je cite quelques exemples. D'un côté, faire la volonté de Dieu plutôt que poursuivre un hypothétique bonheur personnel. Ou rechercher premièrement le royaume de Dieu plutôt que l'accumulation de biens personnels. Agir pour la paix et la justice plutôt que par la violence et les moyens de coercition, etc. Ces choses que l'on sait ne sont pourtant pas faciles à appliquer. Exemple, est-ce qu'on agit pour la paix quand on soutient un gouvernement qui livre des armes pour soutenir un pays en guerre? Est-ce qu'on pratique l'amour de l'ennemi? Et rechercher le royaume de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? D'autres valeurs du monde environnant sont plus insidieuses. Il y a quelques années, les éditions Mennonites ont fait paraître deux dossiers intitulés « À contre-courant, cultiver les valeurs du royaume de Dieu ». Et dans ces deux dossiers, ils sont envisagés justement un certain nombre de valeurs du monde auxquelles sont opposées les valeurs du royaume de Dieu. Je cite là encore quelques exemples. Face à la culture du tout tout de suite, opposer la patience. Face à la culture de l'affrontement, la douceur. Face à la culture de la violence, la paix. Face à la culture du profit, la justice. Face à la culture de la manipulation, les relations humaines, etc. On voit là qu'il ne s'agit pas de ce qui est permis ou pas de faire, mais il est question de valeurs, et ces valeurs inspirent nos comportements. Une autre valeur, plus sournoise encore, s'est imposée à notre époque, celle de l'efficacité, c'est-à-dire le fait de rechercher le meilleur moyen pour arriver à ses fins. Ça a l'air logique, raisonnable, et ça l'est sans doute. Mais agir ainsi, c'est faire passer la méthode avant les personnes. C'est ainsi que, dans certaines entreprises, on écrase les individus au nom de l'efficacité en les transformant en machines. C'est ainsi qu'on détruit la planète, exploitée dans une perspective purement utilitaire. Car l'efficacité suppose une prise de pouvoir sur l'humain, une volonté de maîtriser le monde. Et c'est juste l'inverse de ce que Jésus a fait. Même au moment de sa mort, alors qu'il aurait pu demander à Dieu de lui envoyer des légions d'anges, il ne l'a pas fait. Est-ce que nous-mêmes, nous n'avons pas tendance, y compris dans les églises, à viser l'efficacité, à rationaliser? Par exemple, arriver vite à une conclusion, à une décision, par souci d'efficacité, parce qu'on a autre chose à faire, on n'a pas de temps à perdre, au détriment de l'écoute de l'autre, du temps dont l'autre a besoin, et au détriment de l'écoute de Dieu. John Yoder, un théologien mennonite, disait « Pour le peuple de Dieu, la clé de l'obéissance, c'est pas l'efficacité, mais la persévérance. » Pour le peuple de Dieu, la clé de l'obéissance n'est pas l'efficacité, mais la persévérance. Ce qui veut dire suivre la volonté de Dieu du mieux qu'on la comprend, mais sans placer son espoir dans le résultat direct de son action. Un autre ressort du monde auquel il n'est pas facile de succomber, c'est la peur. Exemple, peur de l'épidémie de Covid, peur de l'invasion de l'étranger, peur d'un cataclysme, peur du lendemain, peur de ce que vont dire ou penser les autres, ou même peur de ne pas faire la volonté de Dieu. Or, la peur rend prisonnier. Au nom de la peur, les gouvernants imposent ce qu'ils veulent, en prétendant nous protéger du danger, en accentuant les méthodes de contrôle et de sécurité. C'est un outil de manipulation qui maintient dans la dépendance et qui nous isole des autres. Là encore, tout l'inverse de ce que Jésus est venu manifester et de la liberté que Dieu veut nous rendre. Et c'est pas pour rien si Jésus n'a cessé de dire « N'ayez pas peur ». J'en arrive à ma troisième partie. Alors comment faire pour ne pas tomber tête baissée dans ces pièges, dans toutes ces valeurs, et pour suivre Jésus de mieux en mieux? Je poursuis ce que Paul a dit en Romains 12, dont j'ai cité le début tout à l'heure. Ne soyez pas façonnés par les schémas de ce siècle, mais soyez transfigurés, littéralement soyez métamorphosés, par le renouvellement de votre intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréé et parfait. Il est question de discernement pour démêler justement ce qui est du monde et ce qui n'en est pas. Et pour avoir ce discernement, il est fait appel au renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement, c'est un processus continu qui métamorphose progressivement. Être de plus en plus attaché à Jésus, c'est le suivre, c'est l'imiter et c'est une marche. Quand Jésus dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice », il est question de chercher et non pas de quelque chose qu'on a une fois pour toutes. De même, dans les dossiers de Christ seul dont j'ai parlé tout à l'heure sur les valeurs du royaume de Dieu opposées à celles du monde, il est question de cultiver les valeurs de Dieu. Ça suppose un travail régulier, cultiver la paix, cultiver la patience, etc. C'est un programme, c'est une direction qui nous tire vers l'avant. Et Jésus lui-même a enseigné la direction à prendre à sa suite, en particulier dans le sermon sur la montagne, comme on l'a vu tout à l'heure. Non seulement en montrant que notre vision du monde est étroite, mais surtout en montrant de manière positive à quoi l'homme est appelé. Il ne s'agit pas de chercher à se détourner du monde, il s'agit de se tourner vers les valeurs du royaume de Dieu. Et c'est pas par hasard si le sermon sur la montagne commence par ce qu'on appelle les béatitudes. On ne peut pas trouver expression plus positive que les béatitudes. Exemple. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés, etc. Voilà ce qui nous est demandé, être artisans de paix, avoir faim et soif de justice. Et en plus, Jésus dit que c'est ainsi que nous serons heureux. Les béatitudes, à l'aide desquelles Jésus nous trace un chemin vers le royaume de Dieu, dessinent très précisément la figure intérieure de Jésus, c'est-à-dire ce que nous sommes appelés à devenir. Mais pour entrer dans le système de valeurs des béatitudes, entrer dans ce système de valeurs suppose le renouvellement de notre intelligence et de fond en comble. Jésus a aussi dit aux pharisiens, « Quel malheur pour vous les pharisiens! Vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les plantes potagères, et vous négligez la justice et l'amour de Dieu. » Ici encore, Jésus condamne le fait de se retrancher derrière l'application de règles, de critères moraux. Ce qu'il demande, c'est un comportement éthique. Déjà dans l'Ancien Testament, par la voix du prophète Ésaïe, Dieu disait « Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Partage ton pain avec celui qui a faim. Ramène à la maison les pauvres sans-abri. Couvre celui que tu vois nu, etc. » Ésaïe 58. Et Jésus a repris ses exhortations lorsqu'il a évoqué le jugement dernier en Matthieu 25, 34-36. « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu me voir. » Dans ce passage, c'est de justice économique et de justice sociale qu'il est question. Et c'est ainsi que nous marcherons à la suite de Jésus et non à la suite du monde. Ce qui signifie que ce qui nous est demandé, c'est de ne pas nous conformer au monde, mais de nous engager pour le monde, comme Dieu s'est engagé en venant lui-même dans le monde, ce qui n'est pas sans risque. Dans la parole adressée par Jésus aux pharisiens, il était donc question de négliger la justice, justice économique et justice sociale, mais aussi l'amour de Dieu. Et c'est là le point central. Il y a un texte dans l'Épître aux Romains qui reprend et qui prolonge la réponse de Jésus à propos de l'impôt dû à César que j'ai lu tout à l'heure. En Romains 13, je cite « Rendez à chacun ce qui lui est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, la taxe à qui vous devez la taxe, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. » Et ensuite il ajoute « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime l'autre a accompli la loi. Les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne désireras pas, et tout autre commandement se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Romains 13, versets 7 à 10. C'est ça qui résout le dilemme posé à Jésus du permis ou pas permis. C'est ainsi qu'on peut être dans le monde sans être du monde. Seul l'amour pour mon prochain permet d'accomplir la loi, à condition bien sûr que mon amour soit sans mélange. Par exemple, est-ce qu'en aimant l'autre, je le respecte? Est-ce que je le fais grandir? Ou est-ce que je l'étouffe? Est-ce que je le fais par besoin de reconnaissance, c'est-à-dire pour moi-même, etc. L'amour de Jésus était désintéressé, il ne recherchait pas le pouvoir et il n'exerçait pas le pouvoir. Donc il faut bien s'entendre sur l'amour, c'est bien l'amour de Dieu. Alors pour arriver à ce niveau d'exigence, pour incarner véritablement les valeurs du royaume de Dieu, pour pratiquer la justice, pour vivre son amour, nous avons besoin, dans notre marche, de cultiver notre relation à Jésus avec l'aide du Saint-Esprit, de la Bible, de la prière. C'est ça qui va produire en nous un changement intérieur qui va changer nos priorités. D'ailleurs, le fruit de l'esprit se décline lui aussi en une liste de valeurs: l'amour, la joie, la paix, la patience, et ainsi de suite. Eh bien, il y a bien l'amour, la première des valeurs. Nous avons besoin de cultiver notre relation à Jésus, mais aussi d'être prêts à nous laisser interpeller, à nous laisser bousculer par la parole de Dieu, comme ceux qui sont allés interroger Jésus et qui en sont repartis tout étonnés. Comme le dit notre confession de foi, que je cite, « Si nous nous conformons au Christ, en acceptant que le Saint-Esprit nous transforme à l'image du Christ, les moyens de ne pas nous conformer au monde nous seront donnés. » Je relis, « Si nous nous conformons au Christ, en acceptant que le Saint-Esprit nous transforme à l'image du Christ, les moyens de ne pas nous conformer au monde nous seront donnés. » Ce qui veut dire que ce que nous devons rechercher, pour reprendre la dynamique, la double dynamique dont je parlais au début, c'est pas de nous détacher du monde, mais c'est être de plus en plus conforme à Jésus. Plutôt que de dire « se détacher du monde puis suivre Jésus », il vaut mieux mettre en premier suivre Jésus, le suivre vraiment. Et du coup, par voie de conséquence, nous nous détacherons du monde. Seul, il est difficile de ne pas se conformer au monde parce que nous ne sommes pas Jésus. Mais l'Église, qui est le corps de Christ, aide à prendre du recul par rapport aux valeurs du monde et à se poser les bonnes questions. C'est elle qui permet de vivre les valeurs du royaume de Dieu, qui permet de les rendre visibles, et donc qui permet d'être dans le monde sans être du monde. L'Église devrait interpeller le monde par sa radicalité positive, par ses valeurs à contre-courant, qui, contrairement à celles du monde, n'enferment pas, ne juge pas, mais qui au contraire libère du monde. En conclusion, je répète le verset de Paul, « Ne soyez pas façonnés par les schémas de ce siècle, mais soyez métamorphosés par le renouvellement de votre intelligence afin de discerner la volonté de Dieu. » Amen.